France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Une élection en pleine guerre, l'Ukraine y est prête, dit désormais son président, et les Ukrainiens pas forcément opposés, même s'ils s'interrogent évidemment sur la sécurité. Nous les écouterons à Odessa dans un instant et nous verrons que Moscou, qui rêve de voir Volodymyr Zelensky battu, se frotte les mains. À suivre encore, une inspection ce matin dans le foyer où un enfant de 8 ans a été tondu et filmé en février dernier, inspection ordonnée par la ville de Paris, nous verrons cela. Emmanuel Macron, contraint d'avaler la suspension de sa réforme des retraites, votée hier soir avec le budget de la Sécu à l'Assemblée. Le bilan carbone de la livraison des colis Chine de la Chine vers la France. C'est l'équivalent d'une ville française de 50 000 habitants. Et puis nous écouterons aussi ces lycéens d'Échirolles dans l'Isère. Un élève de leur lycée a été tué le week-end dernier.
Moi je trouve que c'est choquant car c'est vrai qu'il y a la mairie juste à côté et qu'en fait ces gens-là ils se cachent plus. C'est stressant de se dire que juste devant là où on se trouve tous les jours, il y a des événements comme ça qui se passent et le problème c'est que c'est récurrent, c'est pas une fois tous les 10 ans.
Reportage à suivre. À partir de 13h30, le CAS du musée du Louvre, le rapport d'enquête administrative ordonné au lendemain du cambriolage est dévoilé aujourd'hui au Sénat. Le président de la commission culture du Sénat, Laurent Lafont, pointe la défaillance générale du musée, mais aussi de la tutelle, c'est-à-dire l'État. Il est notre invité, 01 45 24 7000, pour vos questions. 13h50, c'est la France, la laïcité avec Eric Fotorino du 1 Hebdo. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, la chanteuse Mariana Ramos demande Sylvie Vartan.
Le premier concert de ma vie, j'ai 8 ans, je vais voir un concert de Sylvie Vartan. Et là, je vois un spectacle extraordinaire à l'américaine, le show, vraiment, tout ça, je me dis, waouh !
Ce sera avec Frédéric Pommier. Sans oublier, dans une vingtaine de minutes, les sorties cinéma en ce mercredi avec Alexis Demeyer. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Les Ukrainiens vont-ils élire un président dans les prochains mois ? Je suis prêt, a dit hier soir pour la première fois Volodymyr Zelensky, dont le mandat a expiré depuis plusieurs mois. Le président ukrainien, mis sous pression par Donald Trump, qui l'accuse d'utiliser la guerre pour échapper au scrutin. Zelensky pose tout de même une condition, que ses alliés assurent eux-mêmes la sécurité du vote. Alors qu'en disent les Ukrainiens eux-mêmes ? Reportage dans une ville régulièrement bombardée, Odessa, dans le sud du pays. Théo Renaudon.
Petite épicerie dans un quartier populaire d'Odessa. Vous pensez que l'Ukraine doit organiser de nouvelles élections ?
Oui, je pense qu'il faudrait quand même en faire, histoire d'en finir avec toutes ces questions.
Quelles questions ?
Sur les négociations de paix, par exemple. Si les autres partis trouvent notre président illégitime, il faut leur couper l'herbe sous le pied. Moi, je pense que Zelensky est légitime. Mais il est temps pour lui, disons, de mettre un point final à tout ça. Et là, on verra vraiment ce que l'autre parti voudra.
Est-ce que c'est vraiment crédible d'organiser des élections malgré la guerre ?
Si le pouvoir a réussi à mettre en place un schéma de corruption avec le secrétariat d'État et tous les ministres, s'ils ont réussi à organiser une telle corruption, pourquoi ils n'arriveraient pas à organiser des élections ?
Devant, il y a une dame qui boit son café avec son chien, on va aller la voir. Vous pensez que c'est à cause des cas de corruption que Zelensky est sous pression pour organiser ce scrutin ?
Bien sûr que ça joue. Et comment ? De toute façon, plus vite ces élections pourront avoir lieu, plus vite tout ça pourrait se terminer.
Après, dans la pratique, aucun Ukrainien interrogé ne sait vraiment comment changer la loi martiale en vigueur dans le pays depuis 4 ans. À Odessa, Théo Renaudon, RFI, pour France Inter.
Tout cela, cette idée qui progresse donc d'une élection présidentielle en Ukraine, sous le regard satisfait de Moscou. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes notre correspondant en Russie et Vladimir Poutine voit peu à peu Donald Trump reprendre toutes ses analyses.
Oui, le Kremlin d'ailleurs ne cache pas sa satisfaction ce matin en expliquant que Donald Trump a su comprendre ce que la Russie appelle les causes profondes du conflit en Ukraine et Dmitri Peskov, le porte-parole de Vladimir Poutine, d'énumérer les sujets, l'entrée ou plutôt la non-entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, la question des territoires, le fait qu'il faille reconnaître que l'armée russe avance sur le terrain. Sur tous ces sujets, a-t-il dit, les positions du Kremlin et de la Maison-Blanche sont alignées. Et même la dernière déclaration de Volodymyr Zelensky sur l'organisation d'une élection présidentielle est perçu ici comme le résultat du travail diplomatique de Moscou, qui répète depuis des mois que le président ukrainien est illégitime, un travail de sape qui a donc fini par porter ses fruits. Pour autant, cela ne signifie pas que Moscou accorde un satisfecit total à Donald Trump. Ce matin, le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, notait qu'en matière de sanctions, le président américain ne semblait pas pressé de les lever. Au contraire, il les renforce. Le Kremlin veut plus que de la compréhension de la part de Donald Trump.
Sylvain Tronchet, en direct de Moscou, vous nous parliez des Américains. Les États-Unis durcissent, on l'apprend aujourd'hui, durcissent les conditions d'entrée sur leur sol pour les visiteurs étrangers qui n'ont pas besoin de visa. Ça veut dire que les Français sont concernés. Pour rentrer aux États-Unis dorénavant, il faudra fournir l'historique de ses activités sur les réseaux sociaux depuis 5 ans, des informations également sur les membres de sa famille, leur nom, leur numéro de téléphone, leur date et lieu de naissance. Les adresses seront également exigées. L'avis vient d'être publié au journal officiel américain. Allons au Maroc maintenant, la ville de Fès dans le nord du pays, avec l'effondrement de 2 immeubles ce matin. Le dernier bilan est de 19 morts. Cédric Relfi est notre correspondant sur place.
Toute la nuit, les secours aidés des habitants du quartier ont retourné les décombres à la recherche de survivants. 16 personnes secourues et transportées au CHU de Fès. Mais le bilan reste lourd. 19 personnes, dont 4 enfants, ont trouvé la mort dans l'effondrement de ces 2 immeubles du quartier Al-Moustaqbel. Le drame s'est produit en pleine nuit, alors que les 8 familles habitant sur place étaient chez elles. Habitat insalubre et construction anarchique semblent être à l'origine du drame. Selon un responsable local de l'urbanisme joint par le site d'information Express, le permis de construire de ces 2 immeubles autorisait seulement 2 étages et non 4 comme au moment du drame. Ironie du destin, ce permis de construire avait justement été délivré en 2007 dans le cadre d'une opération de lutte contre l'habitat insalubre. En mai dernier, déjà 9 personnes avaient été tuées dans l'effondrement d'un autre immeuble à Fès. Ils refusaient alors d'exécuter un ordre d'évacuation de leur immeuble menaçant ruine.
Cédric Relfi au Maroc pour Inter. Des éducateurs filmés en train de tondre la tête d'un enfant de 8 ans pour le punir, tout cela en se moquant de lui. Les images filmées en février dernier dans un foyer de Paris où l'enfant est placé, ces images révélées hier suscitent de très nombreuses réactions. Le parquet de Paris a annoncé hier soir avoir ouvert une enquête pour violence volontaire. Et vous nous apprenez aujourd'hui, Aurélien Tirard, que des inspectrices de l'aide sociale à l'enfance procèdent en ce moment à un contrôle de ce foyer. Que cherche-t-elle, Aurélien ?
Le but, c'est de savoir d'abord si d'autres faits de maltraitance ont eu lieu dans ce foyer, si d'autres enfants qu'Eliott ont par exemple eu les cheveux tondus, s'ils ont subi des violences, savoir aussi s'il y a dans ce foyer des pratiques inadaptées commises par les éducateurs. Pour cela, 2 inspectrices, dont la responsable de la cellule de contrôle, passent la journée dans le foyer Génère, le foyer en question. Elles sont habilitées auprès de l'aide sociale à l'enfance de la mairie de Paris. Elles vont éplucher l'ensemble des dossiers de la 60aine d'enfants hébergés sur place, en particulier le dossier d'Eliott, pour voir s'il a subi d'autres actes de maltraitance. Selon nos informations, lorsque les inspectrices remettront leur rapport ce soir à la maire de Paris, des décisions très rapides seront prises, avec un devoir d'indépendance, d'impartialité, assure la mairie. Des sanctions à l'encontre du foyer sont possibles. La plus forte serait le retrait du financement de la structure ou bien encore le retrait de son agrément.
Information signée Aurélien Tirard de nos confrères de France Info. Les agriculteurs toujours mobilisés contre les abattage de troupeaux. Ils sont plusieurs dizaines à manifester en ce moment devant une ferme des Bordes sur Arize, département de l'Ariège. Un troupeau doit y être abattu après la détection d'un cas de dermatose nodulaire. Décision du préfet, c'est le premier cas de ce département. Mobilisation ce matin à l'appel du syndicat Coordination Rurale. Un autre syndicat, la Confédération Paysanne, appelle elle aussi à un rassemblement.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Et de 1, le budget de la sécurité sociale pour l'an prochain a donc été adopté hier soir à l'Assemblée nationale. De justesse pour le budget de l'État. En revanche, cela paraît plus difficile, même si le Premier ministre, Sébastien Lecornu, juge ce matin qu'il est possible de le faire adopter d'ici la fin de l'année sans en passer par une loi spéciale, comme cela avait été le cas en début d'année. Mais arrêtons-nous d'abord sur le vote d'hier. Bonjour Alexis Morel.
Bonjour Jérôme.
Et sur les changements très concrets qu'entraîne ce budget. D'abord, le gros morceau, la suspension de la réforme des retraites de 2023, elle est actée, qui est concernée ?
Alors, 5 générations nées entre
1964 et 1968. Elles pourront partir un trimestre plus tôt que prévu et pourront cotiser un trimestre de moins. Ça donne par exemple pour la génération 64 un départ à 62 ans et 9 mois au lieu de 63. Puisqu'on parle retraite, nouveauté aussi pour les mères de famille dans ce budget de la Sécu, avec un calcul plus avantageux de leur pension, désormais basé sur les 23 ou 24 meilleures années de carrière, au lieu de 25 jusque-là. Et puis pour les parents qui attendent un enfant, oui, un nouveau congé de naissance, 2 mois dans la foulée du congé maternité ou paternité, bien mieux indemnisé que l'actuel congé parental.
Il y a aussi du nouveau, Alexis, pour la santé, oui, notamment les arrêts maladie, leur durée va être limitée.
En tout cas, la durée du premier arrêt, 1 mois maximum. Il faudra ensuite retourner chez le médecin pour une prolongation, avec toutefois des possibilités de dérogation. Payerons-nous encore plus cher nos complémentaires santé? C'est la crainte de certains, avec la surtaxe d'1 milliard d'euros qui frappera les mutuelles, même si le texte voté prévoit théoriquement que ce ne soit pas répercuté sur les patients.
Et puis, certains épargnants vont contribuer davantage.
Oui, en tout cas ceux qui détiennent des actions, des obligations ou un PEA, avec la hausse prévue de la CSG sur les revenus de certains placements, donc. Mais finalement, les assurances vie ou les plans d'épargne logement ne seront pas concernés.
Et on y voit plus clair grâce à vous, Alexis Morel, et on comprend que la seule réforme majeure opérée par Emmanuel Macron depuis sa réélection, la réforme des retraites, est donc mise sur pause. Comment réagit le président de la République? Marie Mollet est à l'Élysée où se tenait ce matin le Conseil des ministres. Marie, le président va-t-il jusqu'à se féliciter de ce vote?
Oui. Il a eu un mot court, sans s'étendre. Maude Bréjon, porte-parole du gouvernement.
Le président de la République a félicité le Premier ministre et le gouvernement pour l'implication. Il a mentionné que, bien sûr, c'était un moment important qui montre notre capacité à faire preuve de compromis et qui met la France sur la voie de la stabilité.
Parole économe, pas de triomphalisme. Il est vrai, suspendre la réforme des retraites pour arracher un compromis n'était pas son idée. Sébastien Lecornu a même dû lui tordre le bras pour pouvoir y toucher en le menaçant de ne pas rempiler à Matignon. Entre-temps, sa méthode a payé. Méthode aujourd'hui célébrée par les conseillers du président. On relira cette période depuis 18 mois comme l'acte 1 du compromis à la française. S'enflamme l'un d'entre eux. Il n'empêche, dans le camp macroniste, certains retiennent que sur le fond, le vote d'hier soir enterre une partie du bilan du président. On n'en serait pas là s'il avait accepté de faire un gouvernement moins resserré sur sa garde rapprochée, attaque un député marcheur de poids. Même si dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on s'en défend, non, il n'a jamais fait de la réforme des retraites l'essentiel de son bilan. D'ailleurs, aucun président, nous dit-on, n'est passé à la postérité grâce à ce sujet.
La présidence de la République, qui surveille aussi très attentivement la polémique autour de la Première dame, Brigitte Macron, qui a traité ce week-end des militantes féministes de sales connes, fin de citation, pour avoir interrompu ces militantes le spectacle de l'humoriste Harry Habitant. Ces propos ont été filmés et diffusés. Bonjour Alexandra Hacoun.
Bonjour Jérôme.
Et on en sait plus aujourd'hui sur ces images. Elles n'ont pas été volées. Elles émanent en fait d'une agence photo qui était ce week-end autorisée à suivre Brigitte Macron au théâtre.
Et cette agence, c'est Best Images, spécialisée dans l'actualité People. Sa patronne, Michèle Marchand, dite Mimi, est une amie de Brigitte Macron. Elle s'est même occupée ces dernières années de l'image du couple présidentiel et de celle d'Harry Habitant. Rien d'étonnant donc à ce que dimanche soir, Best Images ait obtenu, d'après Mediapart, l'exclusivité des coulisses du spectacle de l'humoriste aux Folies Bergères. Un de ses photographes vidéastes est donc là, et tout le monde le sait, lorsque la première dame, accompagnée de sa fille Tiphaine Ozière, vient encourager Harry Habitant à quelques minutes de sa montée sur scène.
Ça va, t'es comment?
J'ai peur.
T'as peur de quoi?
De tout.
Une vidéo parmi une vingtaine, en fait, que le photographe envoie à son responsable à Best Images, qui lundi les propose à différents médias, sauf que si la qualité des images est vérifiée, les différents people présents identifiés, personne n'a pensé à écouter ce qui s'y disait, pas même Mimi Marchand, qui ce jour-là était absente. 5 vidéos sont vendues et c'est public qui se retrouve avec celle qui fait polémique et qui la met en ligne avant d'accepter, à la demande de sa source, le magazine People, sans plus de précision, de la retirer. Mais trop tard, la toile est inondée. Quant au photographe, il a présenté sa démission. Best Image l'a refusé. C'est un excellent professionnel, responsable mais pas coupable, a commenté l'agence photo, qui, pas plus que public, n'a répondu à nos demandes d'interview.
Explication Alexandra Hacoun. Le Parti Socialiste, lui, a pris la décision d'exclure l'un de ses élus locaux, le maire d'Augignac, 800 habitants, au nord de Périgueux, car sous une publication publication Facebook du journal Libération, ce maire avait qualifié la France de « youpine » au sujet des appels à boycotter la présence d'Israël au concours de l'Eurovision. « Youpin », c'est un terme antisémite qui s'est répandu en France pendant l'affaire Dreyfus. Et hier soir, c'est Jeanne de Butler, d'ici Périgord, qui est allée apprendre la nouvelle aux habitants d'Augignac.
Le commentaire du maire a enflammé les réseaux sociaux et pourtant dans le village d'un peu plus de 800 habitants, personne n'est au courant.
Je suis journaliste à la radio ici, Périgord.
Qu'est-ce qui se passe ? Israël, maintenu dans le concours des PA, oui alors ?
Il a écrit « Oui au boycott, la France est trop youpine pour boycotter ».
Ouais, bah écoutez, moi c'est des trucs qui m'intéressent pas. Le maire il fait ce qu'il veut, moi j'en ai rien à foutre. Excusez-moi, j'ai pas le temps.
Youpin, certains disent qu'ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Geneviève s'arrête au bar tabac.
Moi j'aime bien mon maire. Ça me choque pas, plus maintenant, qu'est-ce qui peut vous choquer maintenant ? Mais bon, après non, des idées, non, moi, je suis pas d'accord. Quand on est maire, on le garde pour soi. Enfin pour moi.
Vous n'entendrez personne dire du mal du maire, disent les anciens. Ils l'ont vu encore dimanche au repas des aînés. On dit habiticide depuis peu.
Ah oui, effectivement, je pense que déjà sur des problématiques internationales, on devrait pas... Enfin, c'est assez antisémite quelque part, donc oui, c'est choquant. Il est connu pour ce genre de choses, hein ?
Au village, Bernard Bazinet reçoit des tonnes de coups de téléphone. Le maire dit qu'il regrette.
Je comprends tout à fait que ça choque. Oui. Je ne mesurais pas que ce terme, pour moi, était un peu un terme d'argot. Je suis absolument pas antisémite, donc le terme que j'ai employé n'est pas du tout approprié. Je prends mes responsabilités, voilà.
Une plainte a été déposée contre lui. Bernard Bazinet a été exclu du Parti Socialiste, où il a adhéré depuis plus de 30 ans. Il dit qu'il comprend.
Aucun lien à ce stade avec le trafic de drogue. Voilà ce que dit le procureur de Grenoble. Après la mort de deux jeunes le week-end dernier à Échirolles, l'agglomération de Grenoble, deux jeunes tués par balle dans la nuit de samedi à dimanche après une bagarre entre plusieurs dizaines de personnes. Et la plus jeune des deux victimes, 18 ans, était scolarisée dans la rue même où a eu lieu la rixe, la rue Marie Curie, c'est le lycée qui porte ce nom, le lycée Marie Curie. Et Justine Leblond y a rencontré des élèves.
Les discussions sont bien animés depuis lundi matin devant les portiques à l'entrée du lycée.
Ah bah, il y a eu un meurtre et c'était un lycéen du lycée. L'ambiance elle est un peu bizarre. On sait pas trop ce qui s'est passé forcément. Je pense qu'on se pose des questions.
Ça fait même débat dans ce groupe d'amis de 14-15 ans.
En soi, c'est juste des règlements de compte entre des personnes. Donc en vrai de vrai, nous, ça nous attend pas forcément directement. Pour moi, on craint rien.
Bah moi, je trouve que ça fait pas trop peur parce que déjà, c'était devant, pas devant le portail. C'était plus là-bas, là. Et comme elle a dit, c'était des règlements de compte, c'était pas trop des trucs en rapport avec le lycée, donc voilà quoi.
Eux, ils disent qu'on n'est pas concernés, moi je dis on est concernés parce qu'on est quand même des lycéens, on passe devant. L'année dernière, je sais pas si vous êtes au courant, il y a eu un coup de couteau ici. Du coup, on n'est pas trop rassurés.
Un lycéen de 17 ans agressé en avril dernier qui avait reçu 11 coups de couteau à la sortie de l'établissement.
Bah moi je trouve que c'est choquant car c'est vrai qu'il y a la mairie juste à côté et qu'en fait ces gens-là ils se cachent plus. En fait oui, ça fait un stress... Moi personnellement, bah, c'est stressant de se dire que juste devant là où on se trouve tous les jours, bah, y a des événements comme ça qui se passent. Et le problème, c'est que c'est récurrent, c'est pas une fois tous les 10 ans. Là, ça fait plusieurs fois comme en peu de mois, donc c'est assez grave. Franchement, je pense qu'il faut qu'il y ait des mesures qui soient mises parce que c'est dangereux pour nous, le lycée.
À l'intérieur du lycée, une cellule d'écoute psychologique a été ouverte.
Reportage ici, Isère. 4700 contrôles, 114 interpellations, 82 gardes à vue. Voilà le bilan que la préfecture des Bouches-du-Rhône dresse au lendemain de l'opération de police XXL menée par 1500 policiers mobilisés sur 15 points de deal de la ville. 7 kilos de cannabis ont été saisis, nous disent les autorités. Au procès des dirigeants du cimentier Lafarge, accusés de financement du terrorisme, la question hier était de savoir si les services de renseignement français étaient informés que l'entreprise implantée en Syrie avait versé de l'argent à des groupes djihadistes entre 2012 et 2014. La thèse est poussée par la défense, mais elle a été mise à mal à l'audience. Procès suivi au palais de justice de Paris par Charlotte Piret.
À partir de 2012, les multinationales fuient la Syrie qui s'enfonce dans la guerre. Il n'y avait plus d'ambassade de France, explique encore l'ancien chef du renseignement militaire à la barre. Mais il y a Lafarge et sa cimenterie de Jabalia. Les employés de Lafarge deviennent des sources d'information, ajoute le général à l'audience. Pour l'armée donc, mais aussi la DGSI, la DGSE, avec lesquelles le chef de sûreté de Lafarge est en contact régulier. Alors, le parquet antiterroriste pose la question que tous ont à l'esprit. Les services de renseignement avaient connaissance des paiements à l'État islamique ? Absolument pas. Moi-même, je n'en savais rien, assure l'ancien directeur de la Sûreté. Vous allez quand même en être informé, monsieur. Oui, en 2014, deux jours après, le mail était sur le bureau de la DGSE. Un mail dans lequel il écrit que Daesh vient de nous autoriser à reprendre les activités commerciales et transiter sur les routes au nord de la Syrie, tout en précisant que cette autorisation a un coût, un prix fixe et une variable pour chaque tonne de ciment transporté. Nous sommes le 25 août 2014, aucune trace d'information antérieure. Quant à la suite, elle ne tarde pas. Trois semaines après, l'État islamique mène l'assaut et prend possession de l'usine.
Compte rendu signé Charlotte Piré. C'est une question de saison. Quand les achats de Noël battent leur plein, quel est le bilan carbone des achats réalisés en France sur la plateforme chinoise Shein? C'est ce qu'a cherché à savoir le cabinet Greenly, qui est spécialiste de ces bilans carbone. Alexis Normand, son directeur général, est arrivé à ce résultat.
Il y a environ 29 millions de commandes en France chaque année. On estime que ça représente 300 000 tonnes de CO2. Pour vous donner une idée, c'est à peu près l'équivalent d'une ville de 50 000 habitants en France. Et en fait, c'est principalement parce que 3 commandes sur 4 arrivent par fret aérien, donc environ 12-13 kilos de CO2 par commande. Donc c'est un problème général dans le commerce en ligne, mais dans le cas de la fast fashion, c'est encore plus prononcé parce qu'il y a, on passe de une collection par an à 2, 3, 4 collections par an. Et puis le très low cost permet aussi de multiplier les commandes. Donc il y a un effet volume sur des produits dont l'impact environnemental a tendance à être pire que, disons, des collections plus durables.
Alexis Normand au téléphone de Damien Mestre. Je vous parlais de ces effondrements à Fès, au Maroc, au début de ce 13-14. Deux autres informations à l'étranger. D'abord, la remise du prix Nobel de la paix aujourd'hui. La cérémonie vient de débuter. Prix Nobel qui avait été attribué à l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado. C'est sa fille qui doit recevoir ce prix, mais on a appris ce matin que Maria Corina Machado, qui vit cachée au Venezuela, avait réussi à quitter son pays et qu'elle va finalement se rendre à Oslo en Norvège où a lieu cette cérémonie. Elle devrait arriver selon les Norvégiens dans les prochaines heures, entre ce soir et demain matin. Et puis plus d'informations sur la tentative de putsch qui a été déjouée le week-end dernier au Bénin. L'armée béninoise affirme aujourd'hui que des forces spéciales françaises sont intervenues dimanche pour aider à déjouer cette tentative. Le cinéma.
Le monde se divise en deux catégories.
Hasta la vista, baby.
Toi, tu creuses.
Splendid. Deux catégories, ceux qui lancent et ceux qui regardent les films. Vous regardez les films. Bonjour Alexis
Bonjour
de Meyer.
Jérôme.
On commence ces sorties par votre coup de cœur de l'année. L'un de vos coups de cœur de l'année, c'est Résurrection.
Oui, avec ce film, le petit génie du cinéma chinois, Bigan, 36 ans seulement, avait scotché la croisette en mai dernier, repartant de Cannes avec le prix spécial du jury.
Normal.
Les héros du film sont appelés des rêvoleurs, joli néologisme pour désigner cette catégorie d'humains qui ne parvient plus dans un futur proche à distinguer les rêves de la réalité. Vous l'aurez compris, Jérôme, Bigan nous immerge ici dans un univers onirique divisé en 6 chapitres qui revisitent tour à tour les grands genres cinématographiques, action, mélo, épouvante, comme un prolongement du formidable Holy Motors de Léos Carax. Bigan s'aventure aussi courageusement sur le terrain politique particulièrement miné dans son pays, évoquant des questions aussi diverses que la corruption, la torture ou l'homosexualité. La virtuosité de la mise en scène et la narration à fragmentation font de Résurrection l'une des propositions artistiques les plus radicales de l'année ciné qui s'achève.
Autre recommandation, Love Me Tender avec Vicky Krieps et Antoine Reynard.
Nous allons rester dans cette pièce durant l'heure que tu as pour être avec ta maman. Paul a besoin de voir sa mère.
On ne s'énerve pas, d'accord ?
Le combat d'une femme pour continuer à voir son fils dont le père revendique la garde exclusive. Voilà ce que détaille pendant 2h15 la prometteuse cinéaste Anna Cazenave-Cambé qui adapte ici l'autofiction de Constance Debray. Vicky Krieps est magistrale dans le rôle de Clémence, cette femme séparée à l'amiable de son mari depuis plusieurs années, mais dont la relation va se détériorer lorsqu'elle lui confie avoir des relations avec des femmes. Pour se venger, Laurent, joué par Antoine Reynard, lui interdit de s'approcher de leur fils. Ce film brillamment mis en image évoque avec délicatesse la question de la parentalité sur fond d'homophobie et de faillite de la justice des affaires familiales.
Un road movie également, Animal Totem de Benoît Delépine.
Le réalisateur grolandais s'émancipe pour la première fois de son compère Gustave Kervern pour nous raconter l'histoire de Darius, ce mystérieux businessman qui va relier Beauvais à la Défense. en marchant.
Monsieur l'agent, moi là, j'arrive de l'aéroport de Beauvais où je me suis fait tout voler.
Avec vos menottes ?
C'est une sûreté pour les assurances, c'est professionnel.
Très bonne idée que de confier au trop discret Samir Ghesmi le rôle principal de ce road movie décroissant, à la fois comédie, thriller et fable écologiste. De Lépine prend son temps, filme la nature, les animaux et les humains qui la peuplent avec une grande tendresse et un style décalé qu'on aimerait retrouver plus souvent dans un cinéma français parfois désespérément corseté.
Quoi d'autre à l'affiche cette semaine, Alexis ?
Louise, un drame familial avec Cécile de France et Diane Rouxel, La petite cuisine de Mehdi, une comédie gastronomique réalisée par Amina Gina, et Lady Nazca, le biopic de l'archéologue allemande Maria Reiche, qui prend pour décor le magnifique désert de Nazca au Pérou.
D'un mot, le prix Louis de Luc 2025 est attribué à...
La petite dernière, l'un de mes films chouchous de l'année 2025. Ce drame signé Avzia Herzi, on s'en souvient, suit le parcours chaotique d'une jeune fille musulmane et lesbienne. Et le prix Louis de Luc, prestigieuse récompense cinéphilique, soufflera l'an prochain ses 90 ans, sa 90e bougie.
Merci Alexis de Meyer. Là, on n'est pas sur du long métrage, Alexis. 2 minutes 30 pour une pub de Noël réalisée par le groupe Intermarché. Pourquoi je vous en parle ? D'abord parce qu'elle a beaucoup de succès sur les réseaux où elle vient d'être mise en ligne, mais aussi, bonjour Louise Adélaïde Boinard.
Bonjour.
Car le groupe a confié la réalisation de cette pub à l'un des studios d'animation les plus renommés du pays.
Oui, et cette publicité détonne par sa qualité. Imaginez une forêt enneigée, des petits animaux mignons aux grands yeux et un grand méchant loup blanc et gris qui se sent, comme le dit Claude François. C'est le studio d'animation Illogic Studio qui est derrière cette publicité avec un an de travail, 70 travailleurs et toute une palette technique unique. Théophile Dufresne est le cofondateur de ce studio.
C'est un mélange d'animation 3D avec des peintures. C'est d'ailleurs pour ça que pour les designs de personnages, on a fait appel à une artiste qui design des personnages de livres pour enfants.
Et à l'heure où les grandes marques comme Coca-Cola se tournent vers l'intelligence artificielle, ouais. Intermarché et le groupe Les Mousquetaires font le choix du savoir-faire français. Sylvain Bruno est le directeur de communication de l'entreprise.
On a la chance d'avoir des studios, des créateurs, des publicitaires de grande qualité. Plus que jamais, il faut soutenir la création française, de ne pas tomber dans quelque chose qui serait le pub de Noël que l'on revoit 25 fois par 25 marques différentes.
Et pour aller jusqu'au bout de la stratégie marketing, ce conte de Noël est diffusé au cinéma en ce moment, juste avant les séances de Zootopie 2.
Sur le fond, c'est un loup qui devient végétarien. Quel est le message ? Il faut qu'on se mette tous aux légumes, c'est
Mais
ça ?
Ce loup est quasiment végétarien et ça a été un vrai casse-tête pour lui.
Je suis un loup. Qu'est-ce que tu veux que je mange ?
Ah déjà, pas des gens. Des carottes, des champignons, des fruits, des légumes.
Quoi. Ça chasse comment, les légumes ?
Alors, il apprend donc à cuisiner les fruits et les légumes, mais Sylvain Bruno est très clair. Le but de cette publicité n'est pas d'encourager les clients à arrêter la viande.
C'est avant tout cuisiner, et c'est ça que raconte ce conte. C'est la cuisine, c'est consommer des produits, des viandes, du poisson, des fruits et légumes frais. Et nous, on promeut bien évidemment toutes les alimentations.
Et voilà une vidéo qui encourage donc à mieux manger, mais sans faire mention des produits Intermarché.
Louise Adélaïde Boinard, merci pour cette précision. 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Patricia Charbonnier. Puis à partir de 13h30, quels sont les trous dans la sécurité du Louvre ? Le rapport d'enquête après le cambriolage retentissant de ces dernières semaines. Ce rapport a été présenté ce matin au Sénat. On en parle avec le président de la commission culture, Laurent Lafon, 01 45 24 7000, pour être avec nous. 13h45, notre feuilleton toujours dans la vie d'un patrouilleur, son bureau... C'est son fourgon et on va visiter. 13h50, c'est la France, c'est une chanson. Éric Fotorino et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Éric, le mot de la semaine, laïcité.
Eh oui Jérôme, la fameuse loi de 1905 a eu 120 ans, exactement hier, 9 décembre. L'occasion d'interroger cette véritable spécificité française qui provoque encore tensions et débats, en particulier avec les musulmans de France.
Et avec vous Frédéric, une chanteuse.
Une chanteuse originaire du Cap-Vert. Il s'agit de Mariana Ramos. Son 8e album, Sinfonico, vient de sortir et avec elle, c'est une chanson de Sylvie Vartan que nous écouterons.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Dans Mon vrai nom est Elisabeth, Adalion dévoile le destin bouleversant de son arrière-grand-mère, diagnostiquée schizophrène dans les années 50. À partir d'archives et de souvenirs familiaux, elle part en quête d'un passé tenu sous silence. Saluée par la critique, ce premier livre éblouissant est un récit puissant sur la psychiatrie, la transmission et les violences faites aux femmes. Déjà plus de 200 000 lecteurs et lectrices se sont reconnus dans son histoire. Et vous ? Mon vrai nom est Elisabeth, aux éditions du Sous-Sol.
Les guerres et les destructions génèrent une urgence humanitaire au Moyen-Orient. Les populations sont en danger. Pour secourir et reconstruire, aidons les chrétiens d'Orient dans leur mission au service de tous. Leur action dépend de votre soutien. Faites un don à l'œuvre d'Orient sur œuvre-orient.fr.
France Inter, partenaire de l'exposition Amazonia, création et futur autochtone au musée du Quai Branly Jacques Chirac. À travers un dialogue entre œuvres contemporaines et collections historiques, l'exposition déconstruit le cliché de la grande forêt vierge et révèle un monde vibrant et ancré dans le présent. Danse, musique, peinture corporelle, les voix et les créations des peuples autochtones vous attendent. Une exposition événement à découvrir jusqu'au 18 janvier au musée du Quai Branly Jacques Chirac avec France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature.
Bonjour Patricia Charbonnier.
Bonjour Jérôme.
Alors, cet après-midi, grisaille, pluie et toujours de la douceur.
Une douceur toujours hors saison. Ce matin, on a encore frôlé de nombreux records de douceur. Et pour cet après-midi, surtout sur la moitié nord, on sera encore 6 degrés au-dessus des normales de saison, avec par exemple 12 à Nancy, 13 à Limoges, 14 degrés à Paris comme à Biarritz, 15 degrés à La Rochelle, 17 à Marseille et jusqu'à 18 à Ajaccio. Et côté ciel, pas d'amélioration, ça reste gris. On a même une perturbation qui va faire du surplace cet après-midi entre le nord-est et le sud-ouest. Toujours des entrées maritimes près de la Méditerranée, donc encore un petit peu de pluie. Ce sera plus lumineux sur les Alpes et sur le nord-ouest du pays, avec de belles éclaircies même sur la Bretagne et la Normandie.
On va garder cette douceur, Patricia, dans les prochains jours.
Alors à partir de demain, les températures vont baisser par paliers, mais jusqu'au week-end et même jusqu'en début de semaine prochaine, on restera toujours au-dessus des normales de saison, mais avec encore de la grisaille.
Merci Patricia Charbonnier.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Comment quatre hommes ont-ils pu, en plein jour, cambrioler l'un des musées les plus célèbres au monde, le Louvre, et dérober 9 joyaux de la couronne de France, valeur estimée 88 millions d'euros. Lendemain du casse, la ministre Rachida Dati avait demandé une enquête à ses services. Elle est terminée, alors elle n'est pas publiée, mais ses deux auteurs l'ont commenté ce matin pour la première fois au Sénat, devant la commission culture dont vous êtes le président. Bonjour Laurent Lafon.
Bonjour.
Également sénateur du Val-de-Marne. Merci d'être en direct avec nous après cette audition qui était très attendue. Je précise que vous intervenez en direct du Sénat grâce aux moyens techniques de Selim Guéribi. 01 45 24 7000 pour vous qui souhaitez être avec nous, poser vos questions. Vous le faites également via l'application Radio France et l'onglet Réagir. Laurent Lafon, vous avez parlé de graves et persistantes carences dans la sûreté du musée à la lecture de ce rapport qui est entre vos mains depuis quelques jours. Que voulez-vous dire précisément ?
Écoutez, ce que je veux dire, c'est que le cambriolage qui est arrivé le 19 octobre, c'est pas le fruit du hasard, c'est pas une succession de pas de chance, c'est en fait des décisions qui n'ont pas été prises, c'est des recommandations qui ont été faites par des audits qui n'ont pas été écoutées et mises en œuvre, c'est des gens qui au sein du musée travaillent l'un à côté de l'autre sans échanger sur ces questions de sécurité, c'est une culture de la sécurité qui a disparu au niveau du Louvre, c'est une direction qui n'a pas pris à bras le corps les problèmes de sécurité, c'est tout ça qui apparaît dans ce rapport.
Alors, il y a notamment dans ce rapport des précisions sur ce qu'ont diffusé ou pas les images de vidéosurveillance. Et ce qu'on comprend, c'est que le cambriolage a été filmé ce jour-là. Les images étaient disponibles, Laurent Lafon.
Oui, on sait qu'il y a une caméra qui a filmé le quai François Mitterrand et qui voyait très clairement la nacelle. Mais les installations du Louvre étant vétustes sur un plan technologique, en fait, les images de cette caméra n'étaient pas à l'écran dans le PC de surveillance. Il a fallu qu'il y ait une manipulation humaine, une activation de l'image pour rendre visible les vues de la nacelle.
Or, la nacelle se gare, elle est filmée en train de se garer, mais ouais, Personne ne peut le regarder. Il n'y a pas assez d'écran dans le PC ? Comment ça se fait ?
Oui, c'est effectivement, mais ça, c'est pas en soi surprenant parce qu'il y a, en règle générale, il y a plus de caméras qu'il n'y a d'écran. Le problème, c'est que l'automaticité d'un passage à l'autre n'est pas suffisamment performant au niveau du Louvre. Et puis, il n'y a pas eu le réflexe dans la transmission d'informations. Tout ça se passe, il faut bien le reconnaître, sur un temps qui est très court. C'est 4 minutes. Il n'y a pas eu le réflexe de la part des agents qui étaient en salle de dire que c'était une intrusion par la fenêtre au niveau de la galerie d'Apollon. Ils ont indiqué qu'il y avait une intrusion en galerie de Lafayette, mais pas par la fenêtre.
Ah, et, donc le message qui a été envoyé était trop imprécis.
Le message était imprécis, sans doute sous l'effet de l'émotion, de l'événement. Et puis par ailleurs, effectivement, la personne dans le PC de sécurité n'a pas tout de suite essayé d'accéder aux images sur le quai François Mitterrand. Il l'a fait au bout de un peu plus de 4 minutes, pratiquement 5 minutes. Or, comme tout ça s'est passé en 4 minutes, du coup, effectivement, les images n'ont pas été utilisées suffisamment à temps pour prévenir, en l'occurrence les forces de police, que l'effraction se faisait depuis le quai François Mitterrand.
L'un des auteurs a dit ce matin, à 30 secondes près, on aurait pu mettre la main sur les cambrioleurs.
Oui, effectivement, ça se joue à 30 secondes et le rapport va plus loin parce que il dit que ces 30 secondes auraient pu être évitées, notamment ce que je vous disais, si la localisation de l'effraction avait été clairement indiquée aux forces de police, mais aussi si conformément à ce que préconisait le rapport Van Cleef & Arpels de 2019, les vitres du côté du quai François Mitterrand avait une certaine épaisseur, parce que là c'était des vitres qui n'étaient pas suffisamment épaisses et donc fracturables très rapidement. Il suffisait qu'il y ait un temps de résistance un peu plus important et à ce moment-là les cambrioleurs auraient mis plus de temps à rentrer et les forces de l'ordre auraient pu les interpeller.
Est-ce que les dispositifs d'alarme ont fonctionné, Laurent Lafont? Que dit le rapport de ce point de vue-là?
Oui, ça, il n'y a pas d'ambiguïté depuis le début. Les alarmes côté fenêtre comme le côté vitrine ont fonctionné, les caméras à l'intérieur de la galerie d'Apollon ont aussi fonctionné, les agents de surveillance qui étaient dans la galerie ont prévenu immédiatement. Alors avec le bémol que je viens de vous dire, c'est que malheureusement, dans l'émotion, ils n'ont pas précisé que ça se faisait par effraction à partir du quai François Mitterrand. Tout ça a fonctionné. Ce qui n'a pas fonctionné, c'est effectivement la localisation, l'utilisation de la caméra extérieur, situé Amiral Coligny, et ça s'est joué à quelques secondes près. Mais encore une fois, ce qui est peut-être plus important, c'est pas tant ça, parce que il y a forcément une dimension humaine dans la sécurité, qu'il puisse y avoir des petites erreurs de cette nature. Ce qui est le plus important, c'est ce que révèle le rapport, c'est-à-dire c'est l'existence de ce rapport Van Cleef & Arpels sur la galerie Apollon 2019, où on dit clairement, il faut des caméras extérieures face aux fenêtres, elles n'existent pas. Il faut des barrières infrarouges au niveau du balcon de la galerie Apollon. Il n'existe pas. Et il faut renforcer les vitres pour faire en sorte que les vitres au niveau de la galerie Apollon aient un temps de résistance plus important. Ça n'a pas été fait. Pourquoi ça n'a pas été fait? Parce que en fait, au Louvre, on travaille en silo, on travaille en direction. Il y a une direction qui s'occupe de l'intérieur de la galerie et une direction qui s'occupe de l'extérieur du bâtiment. L'audit de Van Cleef & Arpels avait été commandé par la direction qui s'occupe de l'intérieur de la galerie et donc elle a mis en œuvre les préconisations qui la concernaient, mais ce qui concernait l'extérieur n'a pas
été pris. Elle n'a pas passé les infos à ceux qui étaient responsables de l'extérieur.
Alors c'est ça que nous allons essayer de comprendre la semaine prochaine en auditionnant les deux directions qui se sont succédées, celle de Laurence Descartes qui est en direction actuellement et puis celle de Jean-Luc Martinez qui l'a précédée. On a du mal à comprendre pourquoi effectivement il n'y a pas des arbitrages au plus haut niveau qui sont donnés en matière de sécurité. Il n'y a pas actuellement un directeur de la sécurité au Louvre, alors que c'était clairement demandé dans un rapport de 2017.
Toujours pas aujourd'hui.
Laurence Descartes a annoncé il y a quelques jours enfin la création de ce poste.
Qui est la présidente du Louvre.
Absolument, la présidente du Louvre, qui lui sera directement rattachée. C'est quelque chose qui était demandé depuis des années. Pourquoi ça n'a pas été mis en œuvre? C'est pas une question de moyens budgétaires, c'est pas une question d'appel d'offres, évidemment. Donc, qu'est-ce qui a freiné dans la mise en œuvre de ce poste qui, pour autant, est absolument nécessaire?
Louis est avec nous, il nous appelle du Mans. Bonjour Louis.
Oui, bonjour messieurs.
Nous vous écoutons.
Merci de me donner la parole. Tout simplement, moi j'ai fait des bons parce que j'entendais dans l'été, on parlait de la responsabilité de l'État, donc moi je m'assure contre ça. Madame Descartes a un poste prestigieux qui oblige à avoir des responsabilités. Donc il y a un budget de 300 millions je crois pour le Louvre. Je ne comprends pas que les mesures qu'évoquait monsieur le sénateur, dont on avait parlé dans les médias, n'aient pas été mises en œuvre. Tout simplement, donc la responsabilité de la directrice du Louvre est engagée.
Merci.
Contrairement à ce qu'elle dit.
Merci voilà. Louis pour cette question. Laurent Lafont, vous avez dit ce matin, vous avez pointé la défaillance générale du musée, mais aussi de la tutelle. La tutelle, c'est l'État, c'est le ministère.
Absolument. Le Louvre vit en autonomie par rapport au ministère. Effectivement, sur le plan de la sécurité, notamment, mais pas que, la tutelle exercée par le ministère est très faible. Il est dit dans le rapport, et ça nous a été rappelé ce matin, que la personne au sein de la direction des musées du ministère qui suit le Louvre, c'est une seule personne et c'est quelqu'un qui rentre dans la carrière. Vous voyez, elle se trouve face à
un
établissement public qui est jeune et il se trouve face à un établissement public qui est forcément très structuré. La direction financière, ne serait-ce que pour l'analyse des comptes, c'est 40 personnes, je crois, au niveau du Louvre, et tout ça expertisé par un jeune qui commence sa carrière au niveau de la direction des musées du ministère. Évidemment, c'est forcément déséquilibré.
Ça veut dire que le ministère de la Culture, au fond, s'intéresse pas vraiment à ce qui se passe au musée du Louvre ?
Vous savez, c'est un système de confiance. Hein. Je pense que le ministère a fait confiance au Louvre et n'a pas suffisamment contrôlé. La confiance n'exclut pas le contrôle, comme on dit. Et en l'occurrence, il n'y a pas eu suffisamment de contrôle. Tant qu'on n'est pas pris, vous savez, ça va. Et puis le jour où l'incident se déroule, c'est là où tout se révèle et on voit tout ce qui n'a pas été fait.
Pourtant, Laurence Descartes a dit, et je crois que c'était lorsqu'elle a été auditionnée par votre commission, Laurent Lafon, qu'elle avait alerté l'État sur les problèmes de sécurité depuis 2021, c'est vrai ?
C'est fait partie des points que nous allons vérifier la semaine prochaine en auditionnant de nouveau Laurence Descartes. Ce qu'il y a de clair, c'est que dans le projet Louvre Renaissance, cette grande rénovation d'ensemble, il y a le schéma directeur avec 80 millions d'investissements faits. Après, à quel niveau de détail l'information a été donnée à l'État, ça j'en suis pas sûr, sur le fait que il y avait des failles majeures dans la sécurité du Louvre. Je suis pas sûr que ça ait été dit comme ça, nous allons le vérifier, bien entendu.
Il y a aussi la question des moyens. Les syndicats ont annoncé une grève reconductible au Louvre à partir de lundi. Ils parlent de baisse de 8% des dotations de l'État. Est-ce que l'argent est un problème pour la mise en sécurité du Louvre aujourd'hui, ou bien est-ce que le musée au fond, les moyens, Laurent Lafon.
Écoutez, honnêtement, dans ce qu'on constate sur les dysfonctionnements, c'est pas un problème budgétaire. C'est un problème de prise de décision, c'est un problème de hiérarchisation des priorités. Les études pour mettre en place le schéma directeur, ça a commencé début 2017, on est fin 2025, ça vient juste de se terminer. Il y a eu des délais extrêmement longs alors que les financements pour les études étaient présents. Donc c'est pas ça qui explique les retards. Une fois que, bien sûr, tout ça est défini, il est normal qu'il y ait un dialogue entre tutelle et Louvre pour dire qui finance quoi. Mais c'est même pas ça qui a chopé dans le cadre de la sécurité du Louvre. En fait, comme le dit très bien le rapport, le Louvre a perdu la culture de la sécurité. Il faut tout acculturer de nouveau, la direction, les équipes, il faut faire de la formation. Sur l'année 2023-2024, moins de 3% des formations concernaient la sécurité au niveau des agents du Louvre, alors que c'est quand même une des missions premières de tout musée, d'assurer la sécurité des œuvres qui lui sont confiées.
Comment vous l'expliquez, ça, Laurent Lafon ? Pourtant, il y a eu des alertes, il y a eu des rapports. Personne ne les lit, ces rapports ?
C'est ça qui est très étonnant, parce qu'effectivement, il y a des rapports très précis, mais qui ne sont pas suivis des faits. Alors, au jour d'aujourd'hui, j'ai encore du mal à vous répondre avec précision, ça va être l'intérêt des auditions de la semaine prochaine. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un rapport ? Qui décide des suites qui sont données ? Quels sont les arbitrages qui sont rendus ? Ça fait partie des points obscurs. Il y a aussi un besoin de comprendre comment s'est fait la transmission entre les équipes de direction, celle de Jean-Luc Martinez, dont le mandat a pris fin en 2021.
Ça, c'est l'ancien président.
L'ancien président du Louvre et celui de Laurence Descartes, la nouvelle présidente du Louvre, qui est rentrée en fonction à partir de septembre 2021. Manifestement, la passation des dossiers s'est très mal déroulée. Il n'y en a pas eu, à vrai dire, si on comprend bien la situation, que l'équipe de direction actuelle nous dise ne pas avoir eu de connaissance de l'audit de Van Cleef de 2019 ainsi que l'audit de 2017 qui était très complet sur les questions de sécurité, ça nous paraît invraisemblable et pourtant c'est la réalité.
Pour la suite, Laurent Lafon, parlons de la suite. Laurence Descartes propose d'installer un commissariat à l'intérieur du Louvre. Bon, Laurent Nunez avait déjà dit ses réserves. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Écoutez, je crois que la réponse du préfet du ministre de l'Intérieur maintenant a été assez claire. Il n'y aura pas de commissariat, mais je constate par exemple, il y a déjà une brigade de sapeurs-pompiers à l'intérieur du Louvre au moment du cambriolage. Alors certes, c'est pas un problème qui relève des pompiers, mais les pompiers n'ont été prévenus que 30 minutes après le cambriolage. Donc je suis pas sûr que la question d'un commissariat résoudra tous les problèmes. Non, je crois qu'il y a vraiment toute une méthodologie différente à mettre en œuvre. Il faut qu'il y ait un directeur de la sécurité au niveau du Louvre, qui soit placé au niveau de la présidence du Louvre. Il faut revoir toutes les fiches d'intervention. Les agents, par exemple, le rapport établit clairement que la fiche qui est donnée aux agents pour faire face à un vol n'est plus du tout à jour. Elle est périmée. Donc voilà, tout est à reprendre du point de vue de la sécurité.
Travail considérable pour la sécurité. Il y a des fuites d'eau aussi dans le Louvre. Tout cela va sans doute nécessiter des travaux. Est-ce qu'il faudra à un moment, pour aller plus vite, fermer le musée, Laurent Lafont ?
Non, surtout pas. Il faut que le Louvre continue d'être visité. Il y a 9 millions de visiteurs par an. Il faut arriver à échelonner les travaux pour faire en sorte qu'on puisse à la fois laisser le Louvre ouvert et faire les travaux indispensables.
Votre commission continue ses travaux, Laurent Lafont,
hein, la semaine prochaine, audition de Jean-Luc Martinez, ancien président du Louvre, avec son équipe. Et le lendemain, le mercredi, audition de Laurence Descartes avec son équipe.
Nous suivrons tout cela avec la plus grande attention. Merci infiniment d'avoir été en direct avec nous du Sénat. Laurent Lafont, sénateur président de la commission culture, donc qui auditionnait ce matin les deux rédacteurs de cette enquête administrative à la suite du cambriolage du musée du Louvre, 13h45 sur Inter. Une semaine dans leur vie. Notre feuilleton dans la vie d'un patrouilleur d'autoroute depuis lundi. C'est Alain Mundo qui parcourt 300 km par jour sur les autoroutes Vinci du sud de la France, entre l'Hérault, le Gard et les Bouches-du-Rhône. Le bureau d'Alain, c'est son fourgon. Et pour ce troisième épisode, il nous fait la visite.
On a un petit chariot là, simple, pour mettre à peu près une dizaine de cônes si on doit faire un balisage. Donc là, on a quelques outils suivant l'utilisation. Ça peut être pour réparer du grillage rapide pour éviter que les animaux errants viennent sur l'autoroute. Donc ça, c'est un souffleur. C'est pour nettoyer la chaussée quand il y a des accidents. Donc il peut y avoir des débris, tout ça, sur la chaussée. Donc ça, c'est pareil. C'est une poubelle avec deux sacs d'absorbant. Donc ça, on l'utilise, ce sac, c'est quand on doit... nettoyer, c'est-à-dire en cas d'accident, une tache d'huile ou de gasoil pour éviter que les clients glissent en roulant dessus. Donc on met pour absorber directement la matière qui glisse. Et en fait, on ne peut pas intervenir sur l'autoroute sans un fourgon, parce qu'en fait, le fourgon, il est là pour signaler au client qu'il y a une intervention en cours. Mon fourgon, c'est mon bouclier. C'est mon binôme, ouais, on travaille ensemble. Donc j'y tiens à mon fourgon. On a changé les fourgons parce que en fait, le dernier fourgon que j'avais, on est allé je crois jusqu'à 400 000 km. Parce qu'en fait, comme j'expliquais, moi je fais 40 000 par an, mais c'est des fourgons qui tournent 24 heures sur 24. Donc du coup, les fourgons, généralement, leur durée de vie, c'est 2 ans maxi. Donc ça, en fait, c'est le panneau qui permet d'afficher tous les messages sur le fourgon. On appuie, en fait, c'est des messages qui sont programmés en fonction de l'intervention sur l'autoroute. Après, nous avons Patrol Care, deux caméras à l'arrière du véhicule et qui filment quand on s'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence, c'est-à-dire qu'ils vont filmer les 400 mètres qui sont avant notre fourgon. Et si jamais il y a un fourgon, un véhicule ou un camion qui rentre dans ce périmètre, et bien ça va déclencher la sirène pour nous prévenir qu'il y a un danger. Quand on se retrouve dans le périmètre très proche du fourgon, on ne peut pas dire qu'on ne l'a pas entendu. Hein. S'il est sur son téléphone, je pense que ça va lui faire comprendre qu'il n'est pas au bon endroit.
Je crois pas qu'il y ait France Inter de programmer.
Radio Vinci Autoroute, l'infotrafic.
Il est 16h45. L'information de ce milieu d'après-midi, ça n'a pas changé.
L'avantage d'écouter 107.7, c'est qu'au moins on sait ce qui se passe sur les districts limitrophes. Parce que s'il y a un gros accident à limite de secteur, ça peut générer un bouchon qui va venir chez nous. Je me rends compte
que je m'ennuie jamais. Déjà, j'aime conduire. Je regarde, il se passe toujours quelque chose. Il n'y a aucun moment où il n'y a pas de véhicule. Des fois, des moments calmes, là, comme là, où j'ai pas de musique, où on discute, ça, c'est agréable aussi.
Luc Chemla pour ce feuilleton en patrouilleur. La suite demain.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, le mercredi 13h49, le regard d'Éric Fotorino du 1 Hebdo. Aujourd'hui, Éric, les 120 ans de la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État, ce qui peut paraître étrange aujourd'hui, Éric, c'est que cette loi ne parle pas explicitement de laïcité.
C'est vrai, Jérôme. Première bizarrerie, en effet, historique. Cette loi de la Troisième République, portée à l'époque par Aristide Briand, ne mentionne pas dans ses deux articles fondateurs le mot laïcité. Le terme n'entrera pas davantage dans nos lois fondamentales de 1946 et de 1958, sinon sous la forme d'un adjectif. La République, précisément, sera une et indivisible, démocratique, sociale et laïque. Si la loi sépare le politique du culte, renvoyant chacun chez soi, comme le voulait Victor Hugo, l'État d'un côté, les religions de l'autre, le texte se veut alors une loi d'apaisement. Sous couvert de permettre à chacun de jouir d'une véritable liberté de conscience, de pratiquer la religion de son choix ou de n'en pratiquer aucune, la France se dégage ou se désengage ainsi de son image de fille aînée de l'Église. Il n'y a plus désormais de religion d'État ou de religion officielle.
Oui, clairement, cette loi ciblait la religion catholique.
Absolument. Le débat de l'époque fut rude entre ceux qui voulaient, pardonner l'expression, bouffer du curé, des héritiers de la Révolution radicale, Émile Combes, et ceux comme Briand qui voulaient rallier une partie des catholiques à la République. L'obsession vestimentaire, bien avant le voile, porte sur la soutane. Aristide Briand obtint, non sans humour, de ne pas l'interdire. Tout le monde a le droit de porter une soutane, même les prêtres, déclara-t-il, estimant que le talent conjugué des ecclésiastiques et des tailleurs aurait eu tôt fait d'inventer une tenue religieuse qui n'aurait pas dit son nom et qu'il aurait fallu s'épuiser à traquer dans un jeu de chat et de souris. La règle de la laïcité fut ainsi énoncée par le même Briand. La loi doit protéger la foi aussi longtemps que la foi ne prétendra pas dire la loi.
Le principe paraît simple, alors pourquoi son application est-elle si contestée, Éric ?
Si le combat historique pour la laïcité fut mené par la gauche contre l'Église catholique, il a changé de camp depuis les attentats du 11 septembre 2001 à New York et plus encore depuis ceux de 2015 en France. Combat mené par une grande partie de la droite et de l'extrême droite contre l'islam, ou plutôt ses formes dévoyées et violentes. C'est que derrière le débat sur la laïcité se pose en réalité la question de la place et même de l'acceptation des musulmans dans la société française. La loi de 2021 condamnant le séparatisme impose par exemple aux associations gérant des lieux de culte de déclarer les dons de plus de 10 000 euros venant de l'étranger. Une manière de contrôler l'influence dans notre pays de l'islam algérien, marocain ou turc et d'imposer coûte que coûte à tous cette exception française qu'est la laïcité.
Tout autre chose ce mercredi à la une du 1.
Oui Jérôme, un numéro exceptionnel réalisé en partenariat avec les chercheurs de Sorbonne Université autour de cette grande question. L'IA peut-elle nous soigner ? Avec un poster saisissant signé de la graphiste Claire Martha. Alors je le montre au micro, les auditeurs auront de l'imagination parce qu'il nous offre un voyage inédit à travers le corps humain et nos organes. L'IA s'apprête en effet à transformer en profondeur la médecine, des maladies cérébrales à la lutte contre le cancer, de l'hyper-personnalisation des traitements au suivi en temps réel des patients. Elle devient l'alliée des professionnels de santé.
L'IA et la santé, sujet passionnant à lire dans le 1 de cette semaine. Merci Éric Fotorino. De C'est la France à C'est une chanson, c'est une chanteuse capverdienne, Mariana Ramos, que l'on retrouve aujourd'hui à votre micro, Frédéric Pommier.
Mariana Ramos qui vient de faire paraître son 8e album, superbe album, Sinfonico. Et c'est une chanson de Sylvie Vartan qu'elle a souhaité que l'on écoute, Bye Bye Leroy Brown, pour elle un souvenir d'enfance. À l'époque, elle avait 7 ans.
Je débarque en France avec mon papa et mes frères et sœurs.
Vous débarquez du Cap-Vert ?
Voilà, du Cap-Vert, où ma grand-mère nous a élevés pendant 4 ans. Et je n'avais pas vu ma maman, effectivement, depuis 4 ans. Et là, on va à Paris, on se retrouve dans une petite chambre de bonne, tous les 5. On est dans cette petite chambre et juste en dessous, évidemment, il y a le grand appartement de monsieur et madame Martin, rue Henri Martin, Paris 16e. Et maman est bonne pour ce couple.
Vous ne l'aviez pas vue pendant 4 ans parce qu'elle
et
travaillait.
Voilà, parce qu'elle était venue justement trouver un travail, s'installer, trouver un logement, mais elle n'avait pas encore trouvé de logement. Et comme ses patrons étaient souvent en déplacement, voyageaient beaucoup, surtout au Brésil, maman me dit, de toute façon, n'ayez crainte, dans la journée, vous pourrez venir à l'appartement, dans le grand appartement de monsieur et madame Martin, parce qu'ils ne sont jamais là. Alors nous, on descend, et qu'est-ce que je découvre ? Dans un placard, le petit écran de télévision. Je n'avais jamais vu un écran de télévision de ma vie. Et là, qu'est-ce que je vois ? Je vois de la danse classique. Et ensuite, juste après, une émission avec Sylvie Vartan.
Donc Sylvie Vartan, vous la découvrez ce jour-là à la télévision.
À la télévision.
Et elle chante cette chanson.
Et elle chante cette chanson-là, exactement, Leroy Brown.
Dans la ville interdite, un soir que j'étais perdue, c'est la photo au hasard si je l'ai rencontré. Ce garçon nommé Leroy Brown, il se disait artiste, il était beau, il était grand. Une façon de faire les choses comme ça, que je suis tombée dans ses bras.
C'est en 1976 qu'est sortie cette chanson de Sylvie Vartan, Frédéric.
Une chanson que Mariana Ramos a donc découverte à la télévision et jamais elle n'oubliera ce moment-là. Un moment d'émerveillement, m'a-t-elle dit.
Je vois cette femme grande, blonde, élégante, belle, et puis avec beaucoup d'énergie. Et puis, bon, on sait bien, Sylvie Vartan, elle faisait toujours, comment dire, la moue, comme ça, avec sa bouche quand elle chantait. Enfin, elle se donnait un style. Et moi, ça me plaisait bien. Et puis, cette chanson parle d'un artiste qui aime beaucoup les femmes et donc qui court un peu trop les femmes. Mais tout le monde est en extase devant lui parce que c'est Leroy Brown. Sauf que elle, Sylvie Vartan, à la fin de la chanson, elle dit... Allez, bye bye l'artiste, ton numéro est terminé. Je travaille en solo, je n'ai plus besoin de toi. Et donc le thème, tout m'avait plu. Voilà, c'était léger, drôle, ça me plaisait. Et de la voir s'exprimer, danser, chanter, je trouvais ça incroyable. Mais lorsque on m'invite à mon premier concert de Sylvie Vartan, sur scène, là c'est autre chose, c'est du live.
Et ça, c'est très peu de temps après ?
C'est très peu de temps après, un an après. Et j'ai une amie de la famille qui me dit « Comme tu aimes bien Sylvie Vartan, je t'emmène voir son concert. » Et là, je vois un spectacle extraordinaire à l'américaine, le show, vraiment, tout ça. Je me dis « Waouh, c'est magnifique, c'est ce que je voudrais faire. J'ai envie de danser, de chanter, c'est moi. » Et tout est venu d'elle, quelque part.
Voiture, chauffeur et puis tout ça. Partout où l'on allait, lorsque les gens parlaient, c'était encore de Leroy et moi.
Est-ce que par la suite, quand vous avez commencé à monter sur scène, à faire des concerts, à danser, vous avez gardé en tête le souvenir de cette émotion que vous avez eue quand vous avez découvert Sylvie Vartan ?
Exactement, j'avais cette image et je me disais que c'est comme ça qu'on doit être sur scène. Et souvent, aujourd'hui encore, on me dit « Mais quand tu rentres sur scène, tu occupes toute la scène !» J'ai dit « Bon, c'est peut-être le fait d'avoir eu toutes ces émotions qui sont restées ancrées en moi, qui m'ont permis de m'exprimer ainsi sur scène, grâce à Sylvie Vartan et cette chanson. « Allez, bye, bye, Leroy Brown. Oui, pour les femmes, tu es le number one. Tu m'as prise à ton piège et maintenant c'en est assez. Alors j'ai dit merci l'artiste, ton numéro est terminé. Je travaille en solo, je n'ai plus besoin de toi. Il n'y a plus de Leroy et moi. Car aujourd'hui, moi, je m'en...
Bye bye Leroy Brown, Sylvie Vartan. C'était donc Frédéric le choix de Mariana Ramos.
Mariana Ramos dont je vous conseille le nouvel album, son titre Sinfonico.
Merci Frédéric et à demain à suivre Stéphanie Duncan, le fil de l'histoire.